Que Dieu nous bénisse en cette fête de Pentecôte. Merci à Jean-Marc, Estelle, aux musiciens et chanteurs pour ce qui nous a déjà été rappelé. Et je vous propose de réviser, de mieux comprendre ce qu'est cette belle fête de Pentecôte. Pentecôte nous vient d'un mot grec qui veut dire 50, parce que nous sommes 50 jours après Pâques. 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. 10 jours après, c'est la Pentecôte. Donc en tout, 50. Mais avant d'être ce jour merveilleux raconté dans Acte 2, c'était déjà une fête juive appelée souvent la fête des moissons. Et je vous invite à relire quelques versets qui nous rappellent ce qui était demandé pour le jour de cette fête des moissons. Lévitique 23, normalement ça va s'afficher, versets 15 à 22. Dieu a dit par Moïse, « Vous compterez 7 semaines complètes à partir du jour qui suit le sabbat. C'est le jour où vous aurez offert la première gerbe avec le geste de présentation. Vous compterez donc 50 jours. » Cette fois 7, 49 plus 1, problème d'intervalle, ça fait 50. Jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Ce jour-là, vous me présenterez une offrande de votre nouvelle récolte. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour me les offrir devant l'autel avec le geste de présentation. Vous ferez chaque pain avec 3 kilos de farine et vous le cuirez avec du levain. Cette offrande viendra des premières céréales récoltées. En plus de ce pain, vous m'offrirez 7 agneaux sans défaut, âgés d'un an, un taureau et 2 béliers. Vous les brûlerez complètement pour moi, avec les offrandes de farine et de vin qui les accompagnent. Ce sont des sacrifices brûlés pour moi, le Seigneur, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Vous m'offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés, et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre les offrira avec le geste de présentation. Il offrira les 2 agneaux en même temps que les pains. Ces offrandes me sont consacrées, elles sont donc pour le prêtre. Le même jour, vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés chez vous. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je ne vous demande pas de retenir tous les détails de ce qui devait être fait en cette fête, mais il me semble incontournable que l'on se souvienne que cette fête évoque énormément de bénédictions et d'abondance. C'est la fête des moissons. C'est la fête des récoltes, c'est la fête des moissons, où on dit merci à Dieu parce que, une fois de plus, Dieu nous gâte par les moissons. Deuxième rappel de l'Ancien Testament, c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour accomplir une vieille promesse, proclamée en particulier par le prophète Joël. Et je relis 5 versets du prophète Joël qui ont été cités par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte racontée dans Acte 2. Joël 3. Le Seigneur dit, « Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes, et je ferai des actions extraordinaires au ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre, la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et terrible. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Le Seigneur l'a promis. À Jérusalem, sur le mont Sion, certains resteront en vie après cela. Ce seront tous ceux que le Seigneur appelle. » Qu'est-ce qu'on retrouve dans la promesse de Joël qui annonce la venue du Saint-Esprit, à nouveau ce mot-clé « générosité ». Les vieillards, les jeunes, les étrangers, ceux qui étaient là avant, ceux qui arrivent, grande générosité de Dieu. Je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Et le salut qui s'attache à cette grande promesse de Dieu. Cette promesse s'est réalisée il y a 2000 ans, plusieurs siècles après la prophétie de Joël. Il y a 2000 ans, le jour des moissons qui a suivi la crucifixion et la résurrection de Jésus, Dieu a choisi ce jour pour envoyer son esprit. C'est évidemment pour que nous comprenions que son esprit est comme et plus que la fête de la moisson, un jour qui manifeste la bonté de Dieu, sa générosité. Et l'apôtre Pierre va citer le texte que je viens de lire dans Joël pour expliquer à ceux qui sont bouche bée devant ce qui a déjà été rappelé au début de ce culte que c'est ce que Dieu avait promis et que beaucoup parlent en des langues différentes pour que tous comprennent que Dieu veut le bien, que Dieu veut gâter tous ceux qui se tournent vers lui et que Dieu veut nous donner son esprit. Jésus lui-même a rappelé cette grande promesse avant de quitter ses disciples, quelques heures avant sa mort, et nous lirons maintenant quelques versets dans Jean 14 et dans Jean 16. Jésus savait que son Père allait envoyer cet esprit promis, cet esprit nécessaire, et il a expliqué à ses apôtres qu'il était extrêmement bon, extrêmement important que le Saint-Esprit vienne. Jean 14, 25 à 27. Jésus dit : « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et dans Jean 16, les versets 5 à 15. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le Saint-Esprit a été envoyé il y a 2000 ans, le jour de la fête des moissons, le jour de la Pentecôte. Et chaque année, nous en profitons pour essayer de réviser et de mieux comprendre qui est le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité. Nous comprenons beaucoup plus facilement qui est le Fils. Nous croyons que Jésus est Dieu et nous croyons qu'il est né à Bethléem, miraculeusement, qu'il est mort sur une croix et qu'il est ressuscité. Ce n'est pas le Père qui est mort, ce n'est pas l'Esprit, c'est le Fils. Ce n'est pas le Père qui est ressuscité, ce n'est pas l'Esprit, c'est le Fils. Donc on repère assez bien, parmi les trois personnes de la Trinité, la deuxième, le Fils, engendré par le Père de toute éternité, issu du Père, mais éternel aussi. La troisième personne, on la repère moins bien. Et puis on a fait l'erreur de ne pas toujours oser en parler, peut-être parce que certains, à notre goût, en parlaient trop. Et c'est une grave erreur de ne pas en parler assez. Parce qu'il nous faut mieux comprendre qui est le Père à qui nous nous adressons parce que le Fils a ouvert le chemin. Il nous faut mieux comprendre qui est le Fils, c'est celui que nous comprenons le mieux. Et il nous faut aussi mieux comprendre qui est l'Esprit, qui est tellement à l'œuvre, qui est un tellement grand cadeau. Et en préparant ce culte, assez facilement, j'ai pensé à quelques grandes actions de l'Esprit et je suis tombé sur un acrostiche que je vous propose. C'est vraiment une perle. Qui parle, qui nous enseigne, qui nous relève, qui nous libère, qui nous équipe. Si le dernier mot avait été, la dernière lettre avait été, ça aurait été transforme, je reconnais. Mais équipe va bien. Il est celui qui nous équipe. Le Saint-Esprit, le Père, nous l'a envoyé parce que le Fils a accompli parfaitement son œuvre. Vous avez entendu ce que Jésus dit juste avant de mourir. Il est avantageux que je parte pour que le Consolateur, pour que l'Esprit puisse venir, sinon il ne peut pas venir. Eh oui, si le Fils ne nous avait pas ouvert le chemin, n'était pas mort à notre place, ne nous avait pas offert le salut, le Saint-Esprit n'aurait pas pu être envoyé généreusement comme il a été envoyé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est le don merveilleux que le Père a pu envoyer parce que le Fils avait accompli parfaitement son œuvre. Qu'est-ce que fait cet Esprit, cette troisième personne de la Trinité? Eh bien, il parle. Jean 14, 26, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Voilà dans les textes, les deux textes que j'ai relus dans Jean. J'en évoque un ou deux autres. Le Saint-Esprit parle depuis toujours, même avant la Pentecôte. Et il a saisi des prophètes et il a parlé. Et il a parlé à David et il a convaincu de péché, de justice et de jugement avant la Pentecôte déjà. Mais depuis la Pentecôte, il est généreusement répandu. Il parle. Et il parle à son Église. Un des textes bien connus où le Saint-Esprit a parlé est dans Actes 13, l'Église à Antioche est en prière, les anciens cherchent la volonté de Dieu. Et il y a cette belle phrase qui dit « Le Saint-Esprit parla et dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes 13. Un peu plus tard, le Saint-Esprit parle à l'apôtre Paul, acte 16, et il le dirige pour aller jusqu'en Macédoine, là où l'apôtre Paul n'avait vraiment pas prévu d'aller. Le récit de Luc nous fait comprendre que Paul avait plusieurs projets, mais aucun en direction de la Macédoine. Mais le Saint-Esprit, nous dit Luc, a conduit Paul, a parlé à Paul. Alors je vous l'accorde, on ne sait pas comment. Et on est quelquefois un peu frustrés. Mais le Saint-Esprit parle. Et pour nous aujourd'hui, il nous parle, et j'y reviendrai tout à l'heure quand il sera question d'obéir. C'est vrai que j'ai quelquefois rêvé que le Saint-Esprit me parle de façon plus audible. Je ne sais pas si je l'aurais supporté, mais j'en ai rêvé. Que Dieu me dise clairement ce qu'il veut. Certains hochent de la tête. Mais vous me voyez peut-être venir, attendez quelques minutes. Ce n'est pas mon plus grand problème. Parce que le Saint-Esprit parle. Et il me parle, il vous parle, il nous parle. En particulier, de façon discrète mais réelle, quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit parle et son action intérieure est réelle. Il y a des textes que je lis un jour et qui ne me disent pas grand-chose, que je lis un autre jour et qui me bouleversent. C'est les mêmes mots, c'est le même bonhomme, c'est la même langue, je n'en ai que deux, trois sous la main. Mais le Saint-Esprit parle quand nous lisons la Bible en particulier. Quelquefois en nous inspirant des pensées, des paroles, des gestes, Et nous reconnaissons que l'Esprit nous a guidés. Le Saint-Esprit parle, c'est certain. Et non seulement il parle, mais il éclaire. Il nous aide à comprendre, et c'est essentiel, parce que s'il ne faisait que parler, si quelqu'un ne fait que parler et n'explique pas ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Si un professeur ne fait que dire son cours, et s'il n'éclaire pas son cours par des illustrations, c'est souvent bien manquant. Mais le Saint-Esprit éclaire. Jean 16, 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. » Il va convaincre, il va agir à l'intérieur. Jean 16, 13, « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il ne va pas simplement vous la répéter. Il ne va pas simplement vous la rabâcher, mot plus négatif. Mais il va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui ouvre notre intelligence. Le Saint-Esprit est celui qui ouvre notre entendement pour que nous comprenions. Il éclaire notre compréhension des choses. Troisième action forte du Saint-Esprit, il relève. Jean 14, 26, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. » Et qu'est-ce qu'on fait pour aider ceux qui tombent? On les relève. Romains 8, 26, « L'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. » Il y a deux grands cas dans lesquels le Saint-Esprit nous aide. Il y a nos faiblesses, notre petitesse, ce qui nous dépasse, et il vient nous aider parce que nous sommes faibles, et nous ne savons pas toujours comment prier, et nous ne savons pas toujours comment faire, et il vient nous aider. Et puis il y a tout un autre grand chapitre où le Saint-Esprit vient nous aider, parce que nous ne sommes pas seulement faibles, nous sommes faillibles et nous sommes fautifs et nous tombons. Et là, c'est un autre grand R. Le Saint-Esprit nous relève parce qu'il nous conduit dans la repentance. Merveilleuse porte ouverte de la repentance. Heureux l'homme, heureux la femme qui connaissent la repentance pour se relever. « Tant que je me suis tu, dit le psalmiste, mes os se consumaient. J'étais mal dans ma peau comme c'est pas possible. » Français courant. « Mes os se consumaient. J'ai dit, je confesserai mes péchés et tu m'as libéré. » Le Saint-Esprit relève. Le Saint-Esprit conduit à la repentance qui permet la restauration. Il nous relève, il nous revigore. Il nous répare, il nous restaure. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit éclaire, le Saint-Esprit relève. Quatrièmement, le Saint-Esprit libère. Jean 16, pour rester avec le texte que j'ai lu avec vous, Jean 16, 26 et 27. « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est celui qui va nous aider. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Et c'est une des premières fois que je réalise que ces deux versets se suivent. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne tout, qui nous conduit dans la vérité. Et Jésus nous accorde ainsi la paix. Quelques autres versets qui nous rappellent que le Saint-Esprit libère. Romains 8, 1 et 2. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit est celui qui nous libère de la loi du péché et de la mort. Il est celui qui nous permet de recevoir l'enseignement concernant le salut accordé par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur, ici, dit l'apôtre Paul, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage, à nous tous, est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Lorsque le Saint-Esprit est là, la liberté est là. C'est pas beau, ça ? 2 Corinthiens 3, 17. Le Saint-Esprit est celui qui nous libère parce qu'il nous conduit dans la vérité. Et Jésus a dit, la vérité vous libérera, vous rend libre. Le mensonge enferme, le péché terrasse, mais la vérité libère. Et le Saint-Esprit qui offre la liberté, qui éclaire le chemin par la liberté, par la vérité, le Saint-Esprit libère. Encore deux textes qui nous disent à quel point le Saint-Esprit fait une œuvre de libération pour nous. Éphésiens 1, 14. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous libère. Il est la première étape de tout ce que Dieu veut nous donner pour nous libérer complètement du péché. Éphésiens 4, 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Le Saint-Esprit nous libère aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous libérer en cette minute même. De ce qui nous pèse, de ce que nous pouvons confesser, de ce qui nous dépasse et que nous pouvons présenter à Dieu, le Saint-Esprit veut et peut nous libérer. Dieu nous a marqués par son Esprit Saint. C'est lui qui nous assure qu'un jour, Dieu nous libérera complètement. Mais par le Saint-Esprit, il nous libère dès maintenant, réellement, incomplètement. Je ne vais pas contredire la Bible, mais réellement, il nous libère, il me libère. J'ai dit tout à l'heure que je reviendrai quelques instants sur mon rêve, que le Saint-Esprit me parle plus directement, de façon plus audible. Et j'y viens en commentant ce verset. Dieu nous a marqués de son Esprit Saint. Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. L'Esprit Saint nous accompagne, il est là, c'est une personne, c'est Dieu lui-même tout près de nous, en nous. Alors ne faites pas de peine à cet Esprit Saint. C'est vrai que je rêve quelquefois d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Mais j'affirme haut et fort que ce n'est pas mon plus gros besoin. Ça me fait envie. Ça pourrait me donner un coup de pouce. Dieu quelquefois me parle de façon plus claire que d'autres. Mais mon plus gros besoin, ce n'est pas d'entendre une voix plus claire de ce que Dieu veut pour moi. Vous le connaissez, je pense. Vous me voyez venir. Mon plus gros besoin, c'est de mettre en pratique ce que je sais très bien. Et dans le moment de repentance tout à l'heure, chacun de nous a pu demander pardon à Dieu. J'ai pu demander pardon à Dieu. Pour les jours abîmés, les mois perturbés, les années gâchées, en partie, parce que je ne mets pas assez en pratique ce que Dieu m'a clairement révélé, et que je me permets des petits écarts qui deviennent quelquefois moins petits, parce que le phénomène de l'engrenage est un phénomène terriblement vrai. Oui, que le Seigneur nous parle, par son Esprit. Que l'Esprit Saint continue à éclairer notre entendement, notre pensée. Que l'Esprit Saint continue à nous relever, à nous restaurer. Et que l'Esprit Saint continue à nous libérer. Et pour cela, qu'il nous aide à lui obéir. Il y a tellement de choses dans ma vie qui se seraient mieux passées si j'étais plus obéissant. Tellement. J'en serais bénéficiaire, vous en seriez bénéficiaire, d'autres en seraient bénéficiaires, et c'est vrai pour nous tous. Et si vous obéissiez mieux à la voix du Saint-Esprit, j'en serais bénéficiaire. Mais je ne vous dis pas de le faire pour moi. Faisons-le les uns pour les autres. Et chaque fois que nous sommes un peu déçus parce que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être, demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous n'avons pas apporté à l'Église, parce que nous ne sommes pas assez à l'écoute de son Esprit Saint. Parce que des personnes qui sont à l'écoute de l'Esprit Saint, ça fait bouger. Pas seulement ta ville, mais ton Église, et ta vie, et le monde entier. Oui, le Saint-Esprit libère. Ayons soif de cette libération qu'il nous accorde déjà pour plus la recevoir avec plus d'obéissance. Cinquièmement, le Saint-Esprit équipe. Le Saint-Esprit transforme, fortifie. Il y a le texte de 2 Corinthiens 3 que j'ai déjà lu tout à l'heure. Le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Une bonne nouvelle, le chant que nous avons chanté tout à l'heure est fortement inspiré. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Le Saint-Esprit, on le voit quelquefois moins que le Fils, oui. Et pourtant, c'est du concret. Il est celui qui nous transforme. Et il y a un verset très connu qui a déjà été évoqué ce matin et qui nous le dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous n'allez pas me dire que c'est rien. L'œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il nous équipe. Parce qu'une Église qui rassemble des personnes de plus en plus modelées selon le fruit de l'Esprit, je vous promets que c'est une Église qui a de l'impact. Dans sa rue, dans son quartier, et très loin. Parce que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout ensemble... Waouh! Le Saint-Esprit équipe. C'est lui qui développe ce fruit en nous. Et c'est vrai, et je le vois en vous, et nous le voyons en nous, et nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes plus beaux que les autres. Nous sommes en train de dire que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. Et si vous voulez le dire de façon humiliante, mais les deux sont justes, nous serions bien pires. S'il ne nous avait pas transformés, nous aurions beaucoup plus de mal à progresser si le fruit de l'Esprit n'était pas une réalité. Et nous en serions beaucoup plus loin en arrière si le fruit de l'Esprit n'était pas une réalité. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous fêtons, entre autres, le jour de la Pentecôte, le don de l'Esprit. Cette personne moins facile à repérer, mais tellement réel, qui nous parle, écoutons-le. Lisons la Bible avec attention. Demandons à Dieu de nous parler personnellement par le Saint-Esprit. Certains disent c'est dangereux, mais ils le disent avec un sourire. C'est merveilleux. Il parle, écoutons-le. Il éclaire, laissons-nous guider dans la vérité. Avec humilité, acceptons de revoir notre copie. Puisque tout ce que nous pensons n'est pas juste. Le Saint-Esprit éclaire. Acceptons de revoir notre copie, d'être bousculés dans nos idées, quelquefois préconçues. Il relève. Revenons à lui dans la repentance, dans la confiance. Nous pouvons l'attrister. Nous le faisons, mais n'en restons pas là. Nous pouvons l'attrister, mais n'en restons pas là. Il libère. Croyons en son action. Visons la victoire. Il peut et veut nous aider à sortir des pièges et des ornières que nous côtoyons, dans lesquels nous tombons. Mais il veut nous aider à sortir des pièges. Il peut le faire. Et puis, il nous équipe. Laissons-le nous transformer, nous modeler. Alors nous pourrons toujours mieux nous lever pour servir notre Dieu, pour aimer notre prochain, pour faire connaître la vérité, pour faire du bien dans la ville et dans la cité. Oui, notre Dieu, continue par ton esprit à nous transformer. Merci pour la Pentecôte. Amen.